Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Ce lundi qu'intervient la pose de la première pierre pour construire le port en eau profonde à Banana dans le Congo central. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est attendu et déjà sur place. L'ambiance de voir enfin se matérialiser ce projet ambitieux est visible. Situation calme ce lundi dans la zone de Rougari, théâtre d'affrontement la semaine dernière entre les FARDC et les rebelles présumés du M23. Ce constat est fait par les casques bleus indiens de la MONUSCO déployés sur le terrain. La RDC a enregistré ces derniers temps des avancées considérables vers l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine ou la maladie du sommeil. Le pays est passé de plus de 6000 cas en 2012 à seulement 404 cas en 2021. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Dr Eric Mwamba, directeur du programme national de lutte contre cette maladie. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Construction du port en eau profonde à Banana dans le Congo central. La pose de la première pierre intervient ce lundi 31 janvier. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est entendu pour ce faire. Déjà ce week-end, plusieurs personnalités, y compris les membres du gouvernement central, avaient fait le déplacement de Banana. C'est enfin la matérialisation d'un projet ambitieux élaboré depuis l'époque coloniale. Les travaux de construction seront exécutés par la firme Dubai Port World. Plus de détails avec Nana Plurichimambu.
C'est au terminal du fleuve Congo situé à Banana que sera construit le quai d'accostage de ce port en eau profonde, un ouvrage inédit différent d'autres ports du pays construits sur le fleuve. Hormis les quais d'accostage, les entrepôts, l'administration portière qui seront construits, une zone industrielle sera aussi implantée dans la zone qui englobe l'île de Bulambemba, la base navale de Kitona et certains villages du secteur des Asolongo. Une fois construit, le port en eau profonde aura un impact économique et social indéniable sur la population, avec l'accostage dans les eaux nationales congolaises des navires essentiellement ceux de gros tonnage, inaccessibles dans les biefs maritimes congolais. Ces projets tant entendus à Mwanda en particulier pour son essor, se concrétisent peu à peu. Il créera les emplois directs et va promouvoir les transports des marchandises par conteneur. En attendant l'achèvement des travaux de construction de ces ports et sa mise en service, la RDC reçoit un faible tonnage de marchandises par rapport au port des Pointes-Noires du Congo-Brazzaville, de Luanda en Angola ou celui de Kribi au Cameroun ou à cause des gros bateaux. Par ailleurs, la construction d'un port en eau profonde à Banana va non seulement faciliter l'exportation des produits locaux, mais également, elle impactera positivement sur les prix des produits importés. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Autre nouvelle, le village Membelenga dans le territoire du Rumu en Ituri a été attaqué tôt ce matin par des miliciens Maïmaï en provenance de la forêt d'Omaber. Le commandant de la police sur place a été enlevé et plusieurs biens de la population emportés par ses assaillants. Cette incursion a provoqué un échange de tirs entre les éléments de la police et ses hommes armés. Les habitants de cette entité se sont déplacés vers Luna et Idohou pour se mettre à l'abri, ce qui a paralysé le trafic sur l'axe Komanda-Luna. Apprend-on d'autres sources parlent plutôt d'une incursion des ADEF à Samboko Muntei dans la forêt où ils ont pillé des biens de la population, ce que ne confirment pas encore les autorités militaires dans la zone. Au Nord Kivu, la situation est redevenue calme, nous l'avons dit au sommaire, mais encore imprévisible dans la zone de Rougari, théâtre d'affrontement la semaine dernière entre les FARDC et les rebelles présumés du M23. Ce constat a été relevé dans une rencontre ayant réuni hier dimanche à Rougari Centre les casques bleus indiens de la MONUSCO déployés sur place et les autorités ainsi que les notables locaux. Bernard Nyangi.
Les casques bleus indiens de la MONUSCO qui ont initié cette rencontre sont déployés à Rougari depuis le week-end dans le cadre d'une patrouille de combat visant la protection des civils, particulièrement les personnes déplacées des derniers affrontements et ont trouvé des abris temporaires dans les écoles, près de la paroisse catholique et dans des familles d'accueil à Rougari. Selon les sources de la force de la MONUSCO, cette réunion a permis d'évaluer la situation sécuritaire encore imprévisible autour de Rougari. Les rapports reçus des autorités locales ont aussi permis de se rendre compte des défis auxquels font face les milliers de déplacés qui sont jusqu'ici sans assistance dans cette zone opérationnelle, indique notre source. Le chef de groupement de Rougari, qui confirme la reprise par l'armée des collines de Niesisi, Ngugu et Gikeri depuis le week-end, indique qu'une autre rencontre est prévue incessamment avec le commandement militaire pour étudier les possibilités pour les déplacés de retourner dans leur village. Goma, Bernardin Agui, Radio Okapi.
On reste dans la province du Nord Kivu. Il y avait très peu de taxis, bus et voitures en circulation ce lundi matin dans la ville de Goma. La situation est consécutive à un appel à la journée sans transport en commun lancé par le mouvement citoyen en collaboration avec certains transporteurs. Mais la situation a dégénéré. Il y a eu des blessés et quelques personnes interpellées par la police, Sifamagourou.
Entre 7h et 11h locales, le transport en commun a été complètement paralysé dans la ville. Quelques taxibus qui tentaient de circuler ont été traqués par un groupe de transporteurs et autres activistes de mouvements citoyens, précise le représentant du mouvement Véranda Mutsanga à Goma, ce qui a poussé la police à intervenir pour tenter de rétablir l'ordre. Le commandant ville de la PNC, colonel Job Alissa, parle de 4 personnes interpellées et d'un bus impliqué dans les tentatives des barricades de la route principale qui a été saisie. Pour sa part, Véranda Mutsanga parle plutôt de 2 personnes blessées et de 7 autres interpellées par la police. Rappelons que ça fait plus de 2 semaines qu'un malentendu règne autour de la décision d'identification des taxis, bus et voitures par la couleur jaune drapeau et numéro de la mairie. Lors de la réunion du 25 janvier, un compromis avait été trouvé entre le maire et les propriétaires des taxis auxquels 2 mois avaient été accordés pour se mettre en ordre par rapport à cette exigence. Malgré tout, des mécontentements demeurent. Goma, Sifamagourou, Radio Okapi.
Au sud Kivu, le microbe de la maladie de la lèpre continue à circuler dans la province, faisant plus de 60 nouveaux cas enregistrés en 2021. C'est une précision de la coordination provinciale du programme de lutte contre la lèpre au sud Kivu. C'est là à l'occasion de la journée mondiale de la lèpre, célébrée ce dimanche 30 janvier. Le Covid-19 a eu un impact négatif sur les stratégies de lutte contre la lèpre. Cynthia Bachizina Bizana.
Exactement. En effet, les activités de dépistage massif de la lèpre n'ont pas été réalisées comme prévu en 2021. Cela à cause de la pandémie à Covid-19, d'où la baisse de nouveaux cas enregistrés. Le Sud Kivu est qualifié de province sanctuaire, où le microbe de la lèpre continue de circuler. C'est précisément dans 3 territoires, Uvira, Mwenga et Shabunda. Et pour endiguer cette circulation, plusieurs actions sont menées, précise le docteur Freddy Birembano, médecin coordonnateur du programme national de lutte contre la lèpre au sud Kivu. D'abord, l'investigation de nouveaux cas et des sujets contacts pour casser la chaîne de transmission. Ensuite, la deuxième approche est de prendre en charge toutes les nouvelles infections, car plus tôt le malade commence son traitement, plus vite il pourra guérir. La lèpre peut mener à des infirmités, il faut donc donner aux malades infirmes du matériel de réhabilitation. C'est le grand défi actuel du programme de lutte contre la lèpre, car ce matériel est insuffisant face à une paupérisation de la population. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Pendant ces temps, dans la province du Haut-Katanga, cette province compte encore plusieurs foyers de lèpre dans différentes zones de santé. Profitant de la journée de ce 30 janvier, la journée de lutte contre cette maladie, le ministre provincial de la Santé invite toute la population à bannir la stigmatisation et la discrimination de ceux qui en souffrent. Par la même occasion, il sollicite la mobilisation de tous pour les dépistages et les traitements précoces afin d'éviter la survenue des infirmité. On écoute le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga, Joseph Sambi Boulanda, dans cet extrait choisi par Jean Gatou.
D'importants foyers de transmission persistent, notamment dans les zones de santé de Kafubu, Mitwaba, Mufunga Sampwe, Kilwa, Pweto, Sakania, Lukafu, Kapolowe, Kasenga et Kashobwe. Les zones de santé urbaines de Lubumbashi et de Likasi ne sont pas épargnées. Notre pays s'est engagé dans la vision de la stratégie mondiale de lutte contre la lèpre pour la période 2021-2030 vers zéro lèpre, axé sur l'interruption des chaînes de transmission de la maladie, sur des questions d'équité et de justice sociale, mettant l'accent sur l'inclusion des personnes atteintes de lèpre, la réduction de la stigmatisation et de la discrimination. À cette occasion, j'invite l'ensemble de notre population à prendre conscience de l'existence de cette maladie invalidante au sein de nos communautés.
Autre nouvelle, dans la province du Maniema, 6 détenus de la prison de Kingombe à Kalima, dans le territoire de Pangui, se sont évadés dans la nuit du 29 au 30 janvier dernier. L'information est livrée par le directeur de cette maison carcérale, Munyangi Wizazia Senga. Selon lui, l'absence du chef de poste à la prison et l'insuffisance des éléments de la police sont à la base de cette énième évasion. Florence Kizalunga.
Selon le directeur de cette prison, le fait s'est déroulé aux environs de 19h où ces 6 prisonniers ont réussi à s'échapper de la prison à l'absence du chef de poste qui est allé chercher à manger pour sa femme opérée il y a plus d'une semaine. Devenu répétitif, le coordonnateur de l'ONG Agir pour la reconstruction de notre espace et la convivialité Agirec plaide pour le renforcement des éléments de la police pour la sécurisation de cette prison de Kalima. Ramazan Yalimasi.
Nous venons dénoncer cette répétition des cas d'évasion à la prison centrale de Kalima. La nuit d'aujourd'hui, 30 janvier 2022, il aurait eu une évasion. Nous recommandons aux autorités policières d'affecter plus de policiers pour garder les détenus de la prison centrale de Kalima. Et à la division de la justice du Maniema d'affecter certains agents au service pénitentiaire qui sont payés à Kalima, car ceux qui sont là ne vivent uniquement que de la tracasserie aux détenus et visiteurs comme frais de bougie, droit pour donner la nourriture, les arrangements pour les évasions à répétition.
Rappelons qu'à la fin de l'année 2021, il y a eu encore évasion de 16 détenus à la même prison. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, les militants de l'UDPS, section de Kabondo, dans la ville de Kisangani, ont fumé hier le calumet de la paix. C'était à l'occasion de la cérémonie de réconciliation organisée par cette section, la plus grande de la ville, en présence du président fédéral de ses partis politiques, Emmanuel Kambozi. Selon lui, il s'agit là d'une nouvelle politique initiée en vue de rassembler tout le monde dans la perspective de faire gagner aux élections prochaines leur autorité morale. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
C'est à l'esplanade du foyer social de Kabondo que les militantes et militants de l'UDPS se sont donné rendez-vous pour cette cérémonie de réconciliation. Emmanuel Kombozi, président fédéral de l'UDPS, a préféré que les problèmes à la base de la division entre les membres et leurs représentants soient tus pour ne pas remuer les couteaux dans la plaie. Une fois la réconciliation scellée entre les frères ennemis d'hier, il s'est dit comblé de joie.
C'est ça le leitmotiv de notre parti qui dit l'union. C'est l'union qui fait la force. Et même au niveau de la fédération, en tout cas quand nous avons pris le pouvoir, le style était simple de réconciliation. Et c'est pour cette raison que nous amenons la même perspective au niveau de la fédération, au niveau de la section des cellules et des sous-cellules.
Le principal incriminé, c'est le Saint Chimanga, dit pardonner et accueillir tout le monde, un bon père de famille. Il se propose d'organiser une rencontre par la suite pour matérialiser cette réconciliation.
Je vais embrasser tout le monde comme si problème il n'y en avait pas. Donc après cette cérémonie, je vais recevoir tout le monde et réorganiser la section pour que en 2023 nous puissions faire gagner le président de la République les élections dans notre entité.
Rappelons que l'UDPS Kabondo était divisé depuis plusieurs mois en raison notamment du remplacement de certains dirigeants à leurs postes respectifs. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Une mission ministérielle de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO, a été dépêchée ce lundi à Ouagadougou, au Burkina Faso, après qu'une première délégation de chefs d'État-major a été envoyée par l'organisation sous-régionale samedi, suite au renversement du président Roch Marc Christian Kabore la semaine dernière. Cette mission très courte est en charge de préparer le prochain sommet de la CDAO, prévu jeudi à Accra, au Ghana. Et puis le président américain Joe Biden reçoit ce lundi 31 janvier l'émir du Qatar, le Tchèque Tamim Ben Hamed Al Thani, à Washington, dans le contexte des tensions entre la Russie et les pays occidentaux au sujet de l'Ukraine. Les deux hommes s'entendront sur la stabilité de l'offre internationale d'énergie, a précisé la Maison Blanche.
L'invité.
Le monde a commémoré la journée mondiale des maladies négligées, dont la trypanosomiase humaine africaine ou la maladie du sommeil. En RDC, des avancées considérables ont été enregistrées vers l'élimination de cette maladie. Le pays est passé de plus de 6 000 cas en 2012 à seulement 4
404 cas en 2021. Ces efforts sont à mettre à l'actif du gouvernement avec l'appui de ses partenaires. Dr Eric Mwamba, directeur du programme national de lutte contre la maladie du sommeil, est notre invité dans cette édition du journal. Il s'entretient au téléphone avec Jean-Pierre Elali Ikoko. Suivez.
Docteur Eric Mwamba, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Pierre Elali.
C'est dimanche 30 janvier, le monde célèbre la journée de la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine ou la maladie du sommeil. Quel est l'état des lieux à l'heure actuelle de cette maladie en RDC, docteur?
Des progrès considérables ont été réalisés suite à l'engagement du gouvernement de la RDC par l'entremise de son Excellence Monsieur le ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques Mbungani, qui a pris l'engagement d'éliminer et d'interrompre la transmission de la THA d'ici 2030, ce qui a amené l'adhésion des partenaires avec comme des actions concrètes la simplification du diagnostic sérologique de la THA par la mise en place des tests rapides, ainsi que la mise en place des nouvelles molécules d'administration par voie orale, la mise en place des tiny targets pour le contrôle vecteur, ainsi que la digitalisation des données qui nous a permis de mettre en place l'assurance qualité et aussi d'avoir des données fiables et une rapidité dans la réactivité sur terrain. Et avec comme résultat que nous sommes passés de 2012 à plus de 6000 cas et aujourd'hui nous sommes à 2021 à 400 cas rapportés.
Mais docteur, la RDC notifie aujourd'hui 85% des cas de la maladie du sommeil en Afrique. En d'autres termes, malgré les efforts que vous venez de souligner, la RDC est en tête en Afrique. À quoi attribuez-vous ces relâchements alors que dans la plupart des États africains, on assiste à une tendance à la baisse?
Il ne s'agit pas d'un relâchement, mais plutôt des avancées significatives parce que il y a eu un engagement politique important du gouvernement de la RDC qui a amené l'adhésion des partenaires. Et il faut aussi souligner que nous sommes partis de les années 90, 99 par exemple, on rapportait plus de 30 000 cas, alors que aujourd'hui nous sommes en 2021, nous sommes à 401 cas. Donc pour vous rappeler ce que je venais de vous dire dans l'état des lieux, en fait en 2012 on avait plus de 6 000 cas et aujourd'hui nous sommes à 401 cas. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées par les gouvernements, donc par l'entremise du ministère de la Santé. Il y a eu la mise en place de la journée nationale et de cette mise en place, il y a eu des avancées sur le plan thérapeutique et diagnostique. Alors, on a simplifié la prise en charge de la THA en mettant en place les tests rapides et aussi les tests sensibles. Nous avons aussi, pour l'autre volet, le contrôle vecteur, nous avons mis en place les tiny targets avec l'Université de Liverpool, donc qui appuie le gouvernement. Voilà, donc il y a eu suffisamment des avancées par rapport à ça.
Mais malgré ça, nous sommes quand même en tête en Afrique, dans ces domaines.
Oui, nous sommes en tête en Afrique, mais cela ne veut pas dire... Il faut regarder là où nous venons. Donc nous venons des 30 000 cas pour 404 cas. Il faut dire que quand l'OMS a pris l'objectif d'éliminer la maladie dans le monde, en fait, l'objectif concernait qu'on devait notifier moins de 2000 cas. Alors, nous sommes aujourd'hui en RDC, en fait, nous sommes à 404 cas. Nous sommes partis des 30 000. Donc, je pense qu'il y a eu des avancées significatives. Et tous les outils, que ce soit sérologique, diagnostique, thérapeutique, et les contrôles vecteurs que nous avons, parce que les techniques que nous avons aujourd'hui et que nous utilisons sont très sensibles par rapport à ce qu'on avait dans le temps. Et tout est réuni maintenant pour que nous puissions avancer vers l'interruption de la transmission en RDC.
En RDC, justement, docteur, la maladie du sommeil touche plusieurs provinces, notamment les provinces constituant l'ancien Bandundu et les Kasaï. Comment s'organise alors la riposte sur le terrain et quelles sont les difficultés que vous rencontrez?
Il y a 22 provinces qui sont touchées par ce fléau, y compris celles que vous avez dites. Notre stratégie est basée sur la réduction du réservoir humain. Donc, notamment, on met en place des dépistages actifs. Nous envoyons nos équipes mobiles dans les villages qui sont endémiques pour aller faire un dépistage exhaustif dans tous ces villages-là. Et nous mettons aussi dans les paquets complémentaires des AGR qui sont dans les zones de santé endémiques, toutes les activités en rapport avec la trypano, donc dans les structures de soins de santé primaires. Et aussi, l'autre volet, c'est le contrôle vecteur. Ce que nous pouvons dire par rapport à la province, l'ancienne province de Bandundu, c'est qu'il y a 11 000 km² qui ont été couverts par le tiny target, donc le contrôle vecteur, pour briser la chaîne de transmission.
Au regard de tous ces efforts qui sont engagés, est-ce qu'on peut envisager dans l'avenir l'éradication définitive de la maladie du sommeil en République démocratique du Congo? Que faut-il faire pour y parvenir?
Je pense que nous sommes déjà vraiment suffisamment avancés vers l'effet d'élimination parce que nous avons d'abord, ce qui est très important à souligner, l'engagement du gouvernement de la RDC par l'entremise du ministère de la Santé. Premièrement, il y a ça, et puis il y a aussi l'engagement de nos bailleurs qui ont accompagné le gouvernement jusqu'en 2030.
Oui, docteur Eric Mwamba, je vous remercie.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.